Elle a été tuée par son mari.
Par son mari ?
Ah oui, il est en prison, encore.
Il va décapsuler une bière après avoir commis l'irréparable.
C'est bien beau de porter plainte, mais ça aide pas.
Il n'y a personne qui aurait sauvé ma mère. Personne.
Très souvent, une fois que le tapage médiatique est passé, on a tendance un petit peu à oublier les faits.
Qu'est-ce que je dois vous dire ?
Les familles de féminicides, nous prenons, nous, perpétuité.
Ma maman, le but, c'est qu'elle repose en paix.
À la ville, nous sommes tous anonymes. Comment vous dire qu'à la campagne, c'est totalement l'inverse ?
Féminicide, à Oberhofen-sur-Moder, un podcast des étudiants du QEJ, promotion 2024. Épisode 2. Betty Couture. Certains propos de ce podcast ont été lus par un comédien à partir de citations issues de coupures de presse.
La maison d'Elisabeth Buchholz, elle est sur une route départementale, très passante. Il y a pas mal de voitures, d'ailleurs vous devez les entendre. Quelques piétons aussi. De l'extérieur, c'est une maison banale, normale, en pleine ville. Les voisins sont très près, juste à quelques mètres. Mais au rez-de-chaussée, la maison bleue à briques alsaciennes est aménagée en atelier. Le nom, c'est Betty Couture. L'enseigne, elle est toujours là, elle est juste à l'angle de la maison. Ça n'a pas bougé depuis 2015. D'ailleurs, c'est comme si tout s'était arrêté. Scotché sur une des fenêtres, il y a encore une affiche pour la marche blanche.
Le 8 novembre 2015 est une journée comme les autres. À Oberhofen-sur-Moder. Au 55 route de Schirein, Elisabeth Buchholz travaille dans son atelier de couture, au rez-de-chaussée d'une maison. Son appartement est juste au-dessus. Elle y vit seule, depuis qu'elle s'est séparée de Gérard Hurth, avec qui elle s'était mariée en 2008. Son ex s'est installé avec sa nouvelle compagne dans un appartement, au fond du jardin. Le couple Hurth-Buchholz a des problèmes d'argent. Et depuis quelque temps, les rapports sont tendus. C'est bientôt l'heure du déjeuner, quand Elisabeth prend une pause dans son jardin. Au moment de rentrer chez elle, elle se prend les pieds dans un câble et chute, face contre terre. Gérard Hurth la rejoint.
Je me suis dépêché d'aller vers elle. J'avais la possibilité de la coincer pour discuter.
Mais l'homme n'aide pas son ex-compagne à se relever, au contraire. Il l'agresse, lui assène plusieurs coups de masse. À la nuque, au crâne, au dos. Elisabeth crie, appelle à l'aide. Puis le silence. Elle succombe à ses blessures, entre deux machines de l'atelier. Des voisins, alertés par le bruit, appellent les gendarmes qui arrivent rapidement sur place. Gérard Hurth est en train de nettoyer l'atelier. Il ne fuit pas, il ne proteste pas. Il dit même aux gendarmes,
« J'ai tué ma femme. Elle est là. »
Il est emmené en garde à vue, quelques minutes avant que Laurence, la fille d'Elisabeth, n'arrive. Elle comprend immédiatement ce qu'il s'est passé. Laurence n'est pas surprise. Depuis 2011, sa mère avait lancé des appels à l'aide plusieurs fois. Auprès de la justice, auprès de la police, auprès de la mairie. Pourtant, dans le village, tout le monde ne savait pas qu'Elisabeth Buchholz et Gérard Hurth entretenaient une relation violente. C'est surprenant quand on sait qu'à Oberhofen, tout le monde connaît la couturière du village. Au magasin, Giovanni Prêt-à-Porter, Edith, la gérante, se souvient.
Vous la connaissiez ?
Oui, parce que des fois, pour des panages, elle était toujours présente quand j'avais besoin d'une retouche express dans le samedi, par exemple. À l'époque, je n'avais pas la couturière sur place. Et le samedi, quand j'étais débordée, je la sollicitais. Et donc, de temps à autre, elle venait aussi. Et elle faisait des achats pour son mari.
En 2015, la mort d'Elisabeth Buchholz ne fait pas la une des journaux. Pour écrire cet épisode, nous nous sommes plongés dans les archives des dernières nouvelles d'Alsace.
Bon, vous arrivez à trouver un peu plus d'infos sur le sujet ?
Bah franchement, là, je trouve pas grand-chose. Hein.
Alors moi, si, j'ai trouvé un article du 8 novembre dans les DNA. Le titre, c'est « Il tue son ex-femme ». Mais bon, c'est juste une petite brève en bas de page, quoi.
Et dans la presse nationale, on n'a rien ?
Non, moi j'ai rien trouvé du tout.
Non.
Par contre, sur le procès, c'est vrai qu'il y a quand même un petit peu plus d'articles.
Ah ouais, ça a été écrit par qui ?
Eh ben, c'est Aurélien Poivret, c'est un journaliste, c'est le même journaliste qui a écrit les trois papiers que j'ai trouvés là.
Ah mais c'est pas mal ça, en vrai ça pourrait être bien de l'appeler pour avoir plus d'infos.
Ouais, carrément.
Alors qu'il est en détention provisoire depuis 2 ans, le procès de Gérard Heurt débute, en novembre 2017, aux Assises du Bas-Rhin, à Strasbourg. Au cours des 3 jours de procès, l'accusé raconte le jour du meurtre. Ce n'est pas très clair. Les journalistes présents dans la salle ne comprennent pas bien s'il était déjà dans le jardin quand Elisabeth est sortie, ou s'il est sorti quand il l'a entendu tomber. Ça pose évidemment la question de la préméditation, surtout qu'en garde à vue, 2 ans plus tôt, Heurt affirmait avoir volontairement tendu un câble au niveau du sol pour la faire chuter. Devant les jurés, il s'étonne, parle d'un fil qui traînait par terre, puis raconte un enchaînement d'événements
jusqu'au coup de grâce.
Pour se défendre, Heurt tente de décrire une montée en tension. Il dit que Laurence, la fille d'Elisabeth, avait pris trop de place dans le couple, qu'il n'a pas supporté. Dans les faits, Laurence n'était pas présente lors du meurtre. Avant le verdict, l'accusé conclut.
Je voulais l'assommer, pas la tuer.
L'avocate générale réclame 25 ans de réclusion criminelle. La cour le condamne à 18 ans pour meurtre, sans préméditation.
Mais attends, il n'a pas été condamné avec une période de sûreté ?
Mais non, je sais pas, j'arrive pas à trouver l'information.
Le procès, comme le reste de l'affaire, se limite à une couverture médiatique locale dans les DNA. Elle marque d'ailleurs un tournant dans le journal local, qui à partir de ce procès, en pleine période MeToo, commence à utiliser le terme « féminicide » pour qualifier les meurtres commis par des conjoints ou ex-conjoints. Cet épisode a été imaginé par Adélie Aubaret, Pauline Bénion, Lisa Delagneau, Mina Pelletier. Voix, Zoé Derchopin. Production éditoriale, Iris Dereux et Mathilde Mélin.